L'orateur aujourd'hui au séminaire, c'est Guillaume Munch-Macagnoni, qui est chargé de recherche INRIA, travaille à Nantes dans l'équipe Galinet. Et donc Guillaume est un peu le parcours inverse du mien. Donc, à l'origine, c'est un spécialiste de la théorie de la démonstration et de tout ce qui est correspondance avec les calculs typés. Et, mais en ce moment, il s'intéresse aussi énormément à tout ce qui est programmation système, programmation avec beaucoup de guillemets dans le monde réel. Et donc son exposé d'aujourd'hui sur la question des ressources est tout à fait dans cet esprit.
Bonjour, merci beaucoup Xavier Leroy de m'avoir invité. Je suis très honoré d'être ici avec vous pour aborder quelques aspects de la correspondance de Curry-Howard ayant trait donc à la gestion des ressources en langage de programmation. Je suis, comme Xavier l'a dit, théoricien de la démonstration et je vais vous parler, pour poser le cadre, de quelques problèmes qui apparaissent dans la programmation système. Donc, je vais essayer de rester le plus accessible possible en montrant des exemples de code en C++, en Rust et en Camel. Alors, qu'est-ce que la programmation système ? Alors, à l'origine, on avait besoin de gérer les ressources limitées d'une machine partagées entre plusieurs programmes et utilisateurs. Donc, partager la mémoire, les descripteurs de fichiers, les interfaces de connexion, pas seulement partager, mais aussi allouer dynamiquement et garantir l'utilisation correcte. La ressource typique s'utilise entre une acquisition et une libération. La mémoire entre malloc et free, un fichier entre fopen et fclose. Et le point de vue de cet exposé, c'est qu'une ressource est une valeur qui est difficile à copier ou à effacer. Alors, on va très rapidement voir le lien, mais c'est une question très importante. Tout d'abord pour des questions d'efficacité, si on veut avoir des structures de données de grande taille ou des structures de données partagées, il faut avoir un mécanisme ou une technique de gestion de la mémoire. C'est une question de sûreté. Par exemple, si un verrou n'est pas libéré, le programme va planter. Pareil, si plusieurs personnes essayent de décrire dans une cellule mémoire en même temps, ça peut causer une course de données. Alors, c'est important pour l'interopérabilité. Si on veut mélanger des programmes entre eux venant de langages de programmation différents. Et aussi d'expressivité, parce qu'une fois qu'on a des ressources, on veut pouvoir composer les ressources, avoir des structures de données contenant des ressources, et ces structures deviennent elles-mêmes des ressources. Alors, on peut gérer la ressource manuellement. J'ai une fonction d'acquisition et une fonction de libération. Il suffit de s'assurer que l'utilisation se fait entre une acquisition et une libération. Alors, qu'est-ce qui peut se passer ? On peut oublier de désallouer. Ça s'appelle une fuite. On peut oublier de désallouer, mais de façon moins volontaire. Par exemple, s'il y a une erreur. Donc ici, la fonction g va lancer une exception. Et ce faisant, la fonction f n'aura pas l'occasion d'appeler la libération de la ressource. Donc il s'agit également d'une fuite. Ce qui peut se passer, c'est qu'on essaye de l'utiliser après la libération. En lisant le code de F, par inadvertance, je ne me rappelais pas que j'ai fermé la ressource. Alors, c'est embêtant. Ça peut être plus subtil que ça. Si ma fonction g attend deux ressources et s'attend à ce que ce soit deux ressources distinctes, va les utiliser séparément et les fermer séparément, et f n'a pas conscience de ça et duplique la ressource. Ça cause le même genre de problème, mais c'est plus difficile pour s'en assurer que ce genre de choses n'arrive pas. Et là, on voit le lien avec la question à la fois de s'assurer que on ferme bien la ressource, donc il faut effacer la ressource, ce n'est pas une opération triviale, mais aussi copier la ressource, ce n'est pas quelque chose qu'on est censé faire. Et voilà, et donc on peut toujours rendre les choses plus compliquées. Alors, est-ce correct ou est-ce pas correct? Eh bien, ça dépend. Ici, j'ai inséré une ressource dans une clôture. Tout dépend de combien de fois la clôture va être utilisée. Si la clôture n'est pas utilisée, il s'agit d'une fuite. Si la clôture est utilisée exactement une fois, tout est bon. Si la clôture est utilisée plusieurs fois, ça va être un use after free. Et voilà pourquoi la gestion des ressources manuelles, c'est compliqué. J'aimerais vous parler de la distinction entre programmation système et programmation fonctionnelle. Alors, la programmation fonctionnelle vient avec une liste de solutions et la programmation système avec une liste de problèmes. Alors, la programmation fonctionnelle dit d'éviter les effets de bord, la programmation système dit que on vit dans un monde et on veut modifier le monde. Et donc, c'est très important de pouvoir parler de l'état du monde. La programmation fonctionnelle dit qu'on va éliminer les erreurs en prouvant que le code est correct. Mais le monde est hors de notre portée. On n'a pas prise pour prouver que le monde est correct. Donc, il faut être capable de s'assurer que en cas d'erreur qui peuvent survenir, il faut néanmoins préserver les invariants autant que faire se peut. Donc il faut définir une notion d'isolation. Alors, c'est tout bonnement un dialogue de sourds. Et dans cet exposé, je vais vous parler en réalité d'abstraction de l'état du monde. C'est de cela dont il s'agit. Il faut tout d'abord que je vous parle du Rama-Smith. Un grand succès de la recherche en langage de programmation, tellement qu'on n'y pense même plus. Lorsqu'on copie ou on efface une valeur dans un langage comme OCaml, c'est si efficace qu'on ne s'en rend pas compte. Alors, comment est-ce que ça marche? Le programme s'arrête à intervalles réguliers pour ramasser les miettes, donc repérer la mémoire allouée qui n'est plus accessible par le programme. Alors, pour la mémoire, ça marche très bien. Pour les autres sortes de ressources, il y a la possibilité d'enregistrer ce qu'on appelle un finaliseur, qui est une fonction qui va s'exécuter au moment où le ramasse-miette s'aperçoit que la valeur n'est plus accessible. Et on peut ainsi, par exemple, fermer un fichier. Alors, l'utilisation du ramasse-miette est plus rare en programmation système, mais il n'y a pas d'objection de principe. Revenons sur la définition de ressource, une valeur qui est difficile à copier ou à effacer. Le ramasse-miette va très bien gérer la mémoire. Et concernant les valeurs qui demandent une action de nettoyage, alors ça ne marche pas si bien que ça. Parce qu'on ne sait jamais, on n'est pas capable de prédire à quel moment l'action de nettoyage va être effectuée. Cependant, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que la raison pour laquelle les finaliseurs sont très attrayants, c'est que ils proposent un mode de gestion de ressources qui est entièrement compatible avec le reste du langage. on peut créer des structures de données qui contiennent des ressources, etc. Alors, dans un langage comme OCaml, il est plutôt conseillé d'utiliser un idiome comme celui-ci. On acquiert la ressource, on exécute la fonction et on s'arrange pour libérer la ressource, qu'il y ait une exception ou pas. Alors ça permet de raisonner. On sait, au moment où la fonction f retourne, que la valeur a été libérée. On peut factoriser ça. On peut définir une fonction unwindProtect qui a été introduite dans Lisp et définir des fonctions with. Donc c'est un idiome de programmation dans lequel on fait de la gestion des ressources avec unwindProtect. C'est prévisible et fiable, mais c'est limité en expressivité. Pourquoi ? Eh bien, si on acquiert plusieurs ressources, ça va toujours être bien parenthésé. C'est la ressource la plus récemment allouée qui va être désallouée. Alors, il faut bien se rendre compte des conséquences. Le nombre de ressources qu'on peut allouer est limité par ce qu'on peut mettre sur la pile. Et en outre, ça va complètement empêcher toute récursion terminale. Donc, voilà, c'est limité en expressivité et c'est pas forcément très efficace. Alors, revenons à la programmation système. J'aimerais vous parler des destructeurs qui ont été inventés par Bjarne Stroustrup pour pouvoir ajouter des exceptions à un dialecte de C qui deviendra C++. C étant un langage de programmation système, la gestion de ressources est importante et donc il ne pensait pas pouvoir ajouter des exceptions à C sans avoir un mécanisme de gestion des ressources. Alors il s'agit en réalité d'une relecture de unwindProtect comme une abstraction de type. On va associer un destructeur, donc une fonction de nettoyage appelée de façon prévisible, à un type pour définir un nouveau type qui va devenir un type de ressource. En quoi est-ce que ça aide que ce soit une abstraction de type ? Ça veut dire que je peux les composer, je peux définir des nouveaux types contenant des ressources. Et le langage va déterminer automatiquement que cette ressource qui contient des ressources possède un destructeur, sans quoi ce serait incorrect, et est capable de générer automatiquement le destructeur correspondant. Alors, à mon sens, tout s'accélère avec C++ 11. À partir des années 2000 environ, on a envie d'enrichir cette utilisation des destructeurs pour les rendre plus utiles à la gestion des ressources. Comment ? En faisant des ressources des valeurs de première classe. Alors, c'était d'abord pour des questions d'efficacité. Le vieux C++ avait des problèmes de effectuer trop souvent des copies profondes de vecteurs, par exemple. Donc, c'était une façon d'optimiser la copie des vecteurs en disant que, dans certains cas, on n'avait pas besoin de faire une copie, on pouvait simplement déplacer les éléments en déplaçant les pointeurs. Donc, lorsque les ressources qui ici sont des types, sont des valeurs d'un certain type avec destructeur, donc deviennent des valeurs de première classe, on peut les passer, les retourner, les insérer dans les structures de données de la bibliothèque standard, qui deviennent à leur tour des ressources. Et ça, on retrouve en fait l'avantage qu'on avait avec les finaliseurs. Tout simplement parce que, comme avant, on peut les mettre dans les structures de données. Alors, le mieux pour s'en rendre compte, c'est que je vous fasse une démonstration. Alors, voici un programme C++. Pour l'instant, il s'agit du vieux C++. C'est un programme très simple. J'ai un type de ressource, je peux vous le montrer. C'est un objet numéroté qui dit quand est-ce que c'est créé, quand est-ce que c'est détruit et quand est-ce que c'est utilisé. Que fait ce programme ? Il alloue deux ressources. Il appelle F, qui va utiliser A, et il va prévenir lorsqu'il atteint la fin de la portée. Regardons ce qui se passe. Les ressources 0 et 1 sont créées. La ressource 0 est utilisée. Ça, on est au niveau de F. Et on atteint la fin de la portée. Qu'est-ce qui se passe ? À la fin de la portée, les ressources sont détruites dans l'ordre inverse. Alors là, on a rien gagné par rapport à Unwind Protect. C'est la même chose. Alors, la même chose avec une exception qui est lancée. Cette fois-ci, je vais rattraper l'exception et on va voir qu'est-ce qui se passe. Cette fois-ci, la fonction lance une exception et on voit que la ressource est détruite avant que l'exception soit rattrapée. Donc là encore, c'est exactement la même chose que Unwind Protect. Et là où ça devient intéressant, comme je vous l'ai dit, depuis C++11, on a la possibilité de déplacer les ressources. Alors, il y a cette chose qui s'appelle le pointeur unique qui peut contenir une ressource. C'est une abstraction pour un pointeur vers une ressource, mais dont la location est gérée automatiquement. Comme tout à l'heure, j'alloue deux ressources, A0 et A1. Donc il faut faire une petite syntaxe, il faut faire make unique, c'est un peu différent. Mais une fois que j'ai fait ça, je peux appeler move pour déplacer la ressource. Regardons ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on observe ? L'ordre de destruction a changé. Donc déplacer une ressource, ça revient à changer la durée de vie des ressources. La ressource 0, elle est détruite avant fin de la portée, ce qui correspond en réalité à la fin de la portée de F. Une fois que j'ai déplacé ma ressource à l'intérieur de F, en passant la ressource à F, F devient possesseur de la ressource. Et c'est pourquoi le destructeur est appelé par F à la fin de sa portée. Alors, le langage C++ m'interdit de faire ça. Donc, lorsque je déplace quelque chose, je m'en rends compte. Cependant, je peux faire des choses comme ceci. Alors, donc c'est, on reste non typé. Donc on a un avertissement qui dit si on se trompe en choisissant une copie plutôt qu'un déplacement, mais rien ne nous interdit de déplacer plusieurs fois. Alors, il faut savoir que ça marche en pratique. Oui, parce que on est toujours capable de se rendre compte localement si on a déplacé quelque chose ou pas. Pour pouvoir déplacer une ressource dans une autre fonction, il faut la déplacer une première fois. Et donc, à partir de ce moment-là, on sait, on est capable localement, en lisant le code, de dire qu'on l'a déplacé. Bon, bien sûr, on aimerait que ce soit... on aimerait avoir une erreur à la compilation, plutôt que demander au programmeur de faire tout le temps attention. Alors, je vous ai promis qu'on pouvait faire des structures de données avec des ressources. Et bien, c'est le cas. Je peux faire la même chose. J'alloue A0 et A1. J'alloue un vecteur vide qui contient des unique pointers de ressources. Et je déplace A0 et A1 à l'intérieur du vecteur. Après cela, je peux déplacer le vecteur dans la fonction. Et on va observer ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on observe ? Donc, comme on s'y attend, les ressources sont détruites. Très bien. Elles sont détruites dans un certain ordre. Et en réalité, cet ordre est déterminé par l'implémentation du vecteur. Autrement dit, le vecteur qui contient des unique pointers, c'est une abstraction qui spécifie l'ordre de destruction de ces éléments. J'aurais pu insérer les éléments dans l'ordre inverse, ça aurait détruit 1 avant 0. Je peux vous le montrer. Voilà. Donc je vous ai montré la gestion des ressources en C++ moderne. Voilà. Qu'est-ce qui se passe sous le tapis ou derrière le rideau, c'est selon. Déplacer un pointeur, c'est le copier et le mettre à zéro. Lorsque j'ai fait move sur la pile d'appel, j'ai interverti l'ordre de A0 et de A1. Et cet ordre est important parce que c'est celui qui détermine dans quel ordre, s'il y a une exception qui est lancée ou si un return est appelé, les destructeurs correspondants aux ressources A0 et A1 vont être appelés. Alors, je vous propose de revenir sur la machine de Babbage avec deux illustres programmeurs. Et je vous propose de zoomer pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, c'est un programme écrit dans la machine analytique de Babbage. Qu'est-ce qu'on observe ? Donc, il y a plusieurs variables qui sont utilisées plusieurs fois. Donc, ça se lit assez facilement. À chaque ligne, on lit des valeurs dans des registres et on insère le résultat dans un autre registre. Alors, dans la première ligne, je multiplie V0 et V4 et je récupère la valeur en V6. Dans la troisième ligne, je multiplie V2 et V4. Et on observe une différence subtile. On nous dit que la valeur est modifiée, la valeur V4. C'est ce que j'ai surligné en jaune. J'espère que vous arrivez à voir. Alors, pour la première ligne, on nous dit que la valeur de V4 est restée inchangée, tandis que pour la troisième ligne, le 0, en exposant ici, nous indique, donc je parle de celui-ci, ça nous indique que V4 est remis à sa valeur initiale. Alors pourquoi ? Alors tout d'abord, ici, c'est important d'avoir la même valeur qu'avant, parce que je réutilise la valeur V4. Mais dans la suite du programme, je ne me sers plus de la valeur V4. Alors pourquoi est-ce que je la remettrai à 0 ? Rappelez-vous que la machine de Babbage, c'est une machine mécanique. Donc pour manipuler des valeurs, ce sont des objets physiques qu'on manipule. Et en réalité, il y a plusieurs instructions, pour la multiplication par exemple, une version qui déplace et une version qui copie. Et la version qui copie coûte plus cher parce qu'il faut effectuer ça en plusieurs étapes. Il faut dupliquer la valeur dans un registre temporaire, puis remettre la valeur en place. Voilà, et donc on peut dire que Ada était la première programmeuse système. Alors, je vous ai parlé de programmation fonctionnelle, de programmation système. Maintenant, je vais vous parler de Curry Howard. Alors, est-il possible de contrôler la copie et l'effacement par le typage ? Réponse, oui. C'est la découverte de Jean-Yves Girard en 1987 avec la logique linéaire. Et je vais prendre un parti pris qui est que je ne suppose pas une correspondance exacte entre les règles de la logique et les systèmes de type. Donc, ça veut dire que je ne vais pas vous présenter un système de typage pour des lambda termes dont on contrôlerait la copie. Ce que je crois, c'est qu'on peut s'inspirer de la logique linéaire et des travaux qui en ont découlé en sémantique dénotationnelle des langages de programmation pour proposer de nouvelles abstractions de programmation. Et c'est ça qui est important. Ça ressemble à quoi la logique linéaire ? Alors, le cadre dans lequel je vais me placer, c'est celui du calcul des séquents. Donc Xavier vous a parlé il y a 2 semaines. Il vous a présenté le calcul des séquents classique. Je m'intéresse ici au calcul des séquents intuitionnistes. Alors pourquoi ? Simplement, c'est le cadre approprié pour parler de la copie et de l'affaiblissement. On voit ici, dans les 2 premières règles, qu'on cache un effacement des valeurs du contexte et une duplication des valeurs du contexte. L'idée des règles structurelles, c'est de sortir ces copies et ces effacements de sorte que toutes les copies et tous les effacements se retrouvent concentrés dans l'utilisation de ces 2 règles, la contraction et l'affaiblissement. Alors, comment est-ce qu'on a fait ça ? On a changé les règles de sorte à enlever toute copie implicite. Autrement dit, lorsque j'utilise la règle axiome, je n'ai pas le droit de supposer qu'en même temps je vais effacer des hypothèses. Et lorsque j'utilise la règle de coupure, je n'ai pas le droit de supposer que je fais des copies implicites des gens dans le contexte. Il faut effectuer la même modification sur la règle du produit. Et il faut d'effectuer la même modification sur la règle de la flèche introduite à gauche. J'ai rien changé à la logique ce faisant. Tout au mieux, je l'ai rendu plus compliqué parce qu'avec plus de règles, il y a plus d'égalité entre preuves à énoncer. Mais maintenant, je peux commencer à jouer avec ces règles structurelles. Le calcul des séquences linéaires intuitionnistes propose d'interdire ces règles-là. Et au passage, on renomme la croix en tenseur et la flèche en implication ronde. Alors, j'aimerais dire quelque chose ici. Ça, c'est comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de correspondance exacte avec un système de type d'un langage de programmation, je veux dire de la vie courante, parce que là encore, si on a une erreur, il faut être capable de dire que on efface les valeurs. Donc, cette notion de linéarité n'est pas tout à fait adapté à la programmation telle qu'on le trouve en CAML, qui intègre des effets de bord, des exceptions, etc. Je vous propose d'aller plus loin et de mettre en évidence cette règle-là, qui est la règle d'échange, qui est une autre règle structurelle. Donc, cette fois-ci, je vais supposer qu'il y a un ordre sur les formules et je capture tout ce qui consiste en l'échange des formules dans cette règle-là. Ça met à jour l'existence de deux versions de la flèche complémentaires. En réalité, si j'élimine cette dernière règle, on retrouve le calcul de Lambeck qui a été introduit en 1958 pour modéliser la structure des phrases en langue anglaise. Rappelez-vous, déplacer, c'est copier et mettre à zéro. Alors, ça ressemble. La règle d'échange est cette règle d'échange des valeurs sur la pile. Il y a une très jolie suite d'articles écrits par Henry Baker en 1994-1995 qui explique le lien entre, qui échafaude le lien entre les ressources de la logique linéaire et les ressources de la programmation système. Il dit que le fait de pouvoir déplacer les ressources, ça peut être implémenté par une permutation de la pile d'appel, inspirée de la logique linéaire. Alors, il semblerait que on ne sait pas si l'idée a fait son chemin ou pas, et ce serait de façon largement indépendante que le fait de pouvoir déplacer des valeurs a été introduit par la suite dans le langage C++11. Alors, j'aimerais vous parler un petit peu des avancées récentes. Donc, je me suis un petit peu intéressé à la logique qui se trouve derrière le unique pointer que je vous ai montré. Et ce faisant, je suis retombé sur certaines intuitions qu'avait eues Henry Baker. Et on arrive à les rendre beaucoup plus précises et mathématiques. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails techniques. Donc, il s'agit en réalité d'une notion de construction de modèles de sémantique dénotationnelle en utilisant les outils de l'algèbre catégorielle. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe pour nos règles structurelles ? Qu'est-ce qu'elles deviennent ? On interdit la copie, on n'a pas le droit de copier. Et néanmoins, on autorise l'échange et l'affaiblissement. Mais il y a un mais, c'est un échange et un affaiblissement qui sont particuliers parce que les deux font des effets de bord. Celui-ci fait un effet de bord parce que le type peut posséder un destructeur et le destructeur peut faire un effet de bord. Et cet affaiblissement, il est implémenté. Donc par définition, cet affaiblissement, c'est le fait d'appeler le destructeur. Cette règle-là aussi fait un effet de bord moindre. Néanmoins, c'est observable car le fait d'échanger l'ordre des arguments, ça permet d'observer l'échange dans l'ordre des destructions. Alors, si on rentre un petit peu dans les détails, alors j'ai rajouté ce transparent, car la semaine dernière, Xavier vous a expliqué que la correspondance n'est pas tout à fait parfaite entre logique modale et les notions d'effet en langage programmation. Donc, la monade losange, elle est un peu particulière, ça ne correspond pas tout à fait aux monades dont on a l'habitude en langage programmation. Et il se trouve que ici, on restaure la correspondance. Donc dans la logique modale S4, bon, des variantes constructives ou linéaires, donc en l'occurrence, ce serait une logique linéaire intuitionniste avec des choses en plus. On peut trouver deux modalités. Donc on peut supposer que c'est un modèle de calcul avec des effets. Et là-dedans, on peut trouver une modalité d'effet qui mélange état et exception et une modalité de ressources qui contrôle l'effacement. Et pour que tout cela marche, on retrouve la règle qui manquait la semaine dernière à Xavier pour pouvoir dire que ça correspond bien à la logique S4. Cette règle, elle dit que on peut faire des exceptions, ici, à condition de savoir comment arrêter le calcul pour propager une exception. Si le calcul de A, ici, lance une exception, il faut être capable de dire qu'on n'effectue pas ce calcul. Et donc, on a besoin de savoir qu'on peut l'effacer. Voilà, donc c'est un travail en collaboration avec Guillaume Combette. Enfin, j'aimerais vous parler d'un autre sujet qui découle de la linéarité, qui a inspiré pas mal du monde. C'est le lien entre la mutation et la linéarité. L'idée est très simple. Si on est le seul à avoir accès à une valeur, alors on ne peut pas distinguer entre oublier cette valeur et en renvoyer une nouvelle et modifier la valeur en place. En conséquence, si on a une valeur linéaire, on a une notion de mutation sans effet de bord. Le revers de la médaille, c'est que on va gagner en efficacité, mais pas en expressivité, parce qu'on ne peut pas faire la différence entre modifier la valeur et oublier cette valeur et en renvoyer une nouvelle. Il y a beaucoup d'occurrences, donc beaucoup d'applications de cette idée. Je vais vous présenter une version que j'aime particulièrement. C'est l'idée de donner une abstraction des valeurs à trous comme des fonctions. Donc un travail de Minamide, dont en fait j'entends de plus en plus parler dans le sens où c'est une idée qui a l'air de revenir dans beaucoup de contextes. Comment est-ce qu'on peut représenter des structures de données immuables mais non achevées? Typiquement lorsque vous voulez implémenter map de façon efficace. Voici une implémentation de map qui n'est pas récursive terminale. Donc, si on applique map à une liste très grande, on va faire une erreur, un dépassement de pile. On pourrait imaginer qu'on fait les choses de façon plus efficace en remarquant que on pourrait simplement appeler map de façon récursive terminale en lui passant la valeur intermédiaire qui n'est pas encore finie d'être construite. Et donc, il s'agit d'une valeur à true. On ne peut pas exprimer ça en camel à moins de faire des hacks. Mais il y aurait une façon élégante de le faire, c'est de dire que la notion de valeur à true, on peut la représenter au moyen d'une nouvelle forme d'abstraction, hfun, et le fait de remplacer une valeur dans le true d'une valeur à true, on peut voir ça comme l'application correspondante. Bien entendu, ça peut, on peut l'utiliser qu'une seule fois. Alors, la version efficace, ce serait quelque chose comme ça, où je construis une valeur intermédiaire qui possède un trou, et c'est ce trou-là que je remplis à la fin. Alors, comme je vous le disais, on gagne en efficacité, mais pas forcément en expressivité. Néanmoins, donc cette idée de linéarité, c'est une jolie idée qui permet de contrôler qui accède à une valeur mutable. Alors, essayons de relâcher un petit peu cette notion de mise à jour en place, et au lieu de dire que je suis le seul à avoir accès à cette valeur, c'est de dire je suis le seul à avoir la permission d'accéder à cette valeur temporairement. Je peux rendre la permission plus tard. De cette façon, la mutation peut être observée. Et ça, c'est plus expressif que ce qu'on avait avant. Et c'est là où je veux vous montrer donc la deuxième démonstration, c'est comment un langage comme Rust permet d'empêcher les invalidations d'itérateurs. Et la même technique, en fait, permet d'éviter les courses de données en programmation concurrente. Donc, qu'est-ce qu'une invalidation d'itérateur ? Donc, j'ai envie de vous montrer un bug. Donc, voici un programme C++ où j'ai un vecteur qui contient des chaînes de caractères ABC. Je prends un pointeur vers la première case du tableau et je décide d'assigner une nouvelle valeur, D. Je fais autre chose avec un autre vecteur, cela ne devrait pas interagir. Regardons ce qui se passe. Voilà. Donc, on a le résultat attendu, on a modifié la première case, et on a récupéré la valeur first. L'invalidation d'itérateur, c'est lorsque j'ai ce pointeur qui pointe vers une case du tableau, mais en parallèle, je modifie la structure de données sous-jacente de sorte que le pointeur n'est plus valide après. Qu'est-ce qui se passe lorsque je veux rajouter un élément dans le vecteur ? Je vais d'abord vous montrer le résultat. Et ça, c'est assez inattendu. J'assigne D à first. Je lis la valeur de first. Et j'observe la mauvaise valeur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le vecteur qui avait atteint sa capacité maximale, ici, pour rajouter un nouvel élément, il faut le réallouer ailleurs. Ce faisant, on va libérer la mémoire précédente, y compris la mémoire que pointait first. Et lorsque je définis ce nouveau vecteur, je réutilise l'ancienne mémoire. J'ai le droit de le faire, vu que la mémoire est libre. Et ce que j'observe, c'est la nouvelle valeur, mais ça n'a absolument aucun sens calculatoire. Le programme aurait très bien pu, à la place, décider de planter. Et c'est un genre de bug très pernicieux parce que c'est très difficile à détecter. Regardons comment Rust nous permet de nous en sortir. C'est le même programme. Donc je prends un pointeur vers A, je pousse une valeur E. Que se passe-t-il ? J'ai une erreur à la compilation et il nous dit on n'a pas le droit d'emprunter vec alors que je vais le modifier par la suite. Autrement dit, le typage nous informe que l'opération push de vec est capable de modifier le vecteur. Et si je modifie le vecteur, alors que j'ai j'ai un pointeur vers le contenu, donc statiquement, je suis capable de savoir que je suis en train de violer la discipline du langage. Voilà. Alors moi, j'aimerais vous parler du point de vue logique sur qu'est-ce que c'est cette notion d'emprunt, donc d'emprunt linéaire. Donc il s'agit d'une nouvelle abstraction de type pour des types qui sont copiables en séquence mais pas en parallèle. C'est quoi l'intuition du fait d'être copiable en séquence ? C'est à nouveau l'idée de permission. Ce qui est linéaire, ce n'est pas la référence elle-même, mais c'est la permission d'accéder à la valeur. Donc l'intuition, c'est que la fonction f, ici, reçoit un argument caché, et cet argument caché est retourné et est passé à g, et après il est oublié. Et c'est cette permission-là qui est linéaire. Alors, c'est une idée qu'on trouve dans des langages avec permission explicite, comme le langage Mezzo de François. Ce qui m'intéresse ici, c'est que ça semble définir une nouvelle notion de type, donc ceux qui sont copiables en séquence et pas en parallèle. Et lorsque je vois ça, je sais que ça va donner de nouvelles opportunités pour réutiliser les fonctions existantes du langage et raffiner leur type, pour refléter le fait que certaines fonctions font les choses en séquence et pas en parallèle. L'exemple de map. La fonction map, la définition de la bibliothèque Camel, fait les choses en séquence. Et même si on décidait du jour au lendemain de changer l'implémentation et de le faire en parallèle, donc même si le typage serait toujours correct, ça ferait planter plein de programmes. La raison, c'est que en réalité, le map et le map parallèle n'ont pas le même type. Parce que le premier map, on sait que la clôture, donc la fonction que je passe en argument, est appelée séquentiellement, n'est pas copiée. Et donc c'est une clôture qui peut contenir des accès à des valeurs mutables. Autrement dit, map possède un type plus fort que le map parallèle. Voilà. Alors, je vais conclure rapidement. Il y a plein de choses à dire sur la linéarité dans Curry Howard. Ici, je vous ai parlé, en réalité, d'une synthèse possible entre la programmation fonctionnelle et la programmation système. Parce que les problèmes de la programmation système, de nos jours, c'est-à-dire être capable d'interagir avec le monde sur lequel on a aucune prise, c'est plus juste une question de programmer des systèmes d'exploitation, c'est simplement programmer n'importe quelle application à l'ère d'Internet. L'idée issue donc de cette correspondance que j'ai souhaité souligner ici, c'est l'idée qu'il y a une notion de linéarité des valeurs qui est importante et que plusieurs abstractions de typage peuvent correspondre à cette notion de linéarité des valeurs. Alors moi je suis très impressionné, et je crois que je ne suis pas le seul, par le langage Rust et son modèle de concurrence sans crainte. Et ce dont je vous ai parlé, ça, donc c'est à la base de ce modèle-là. Et donc on a ici deux découvertes en logique et en programmation. Donc d'une part la logique linéaire de Girard, et tout ce qui en a découlé, et la gestion des ressources avec C++ tout d'abord et Rust par la suite. Alors, une petite précision, donc Rust s'inspire largement de C++, mais aussi des résultats de la communauté en programmation, notamment le langage Cyclone, les types régions, etc. Donc Rust réussit à faire une synthèse dont on commence tout juste à en explorer les conséquences. La linéarité dans Curry Howard, c'est bien plus que ça. La logique linéaire a été découverte par Jean-Yves Girard à partir des modèles de Gérard Berry. Donc en regardant droit dans les yeux les modèles du lambda calcul, on a découvert la notion de linéarité et la logique linéaire. Et ça a été une découverte très, très fructueuse. Notamment, la notion de... Donc je vous ai parlé de linéarité de valeur. Il y a aussi une notion de linéarité de calcul, et ça parle de phénomène d'ordre d'évaluation. Donc ça va un peu plus loin que ça. Donc il y a plein de choses à dire à partir de cette notion de linéarité qu'on observe à travers des formulations assez simples de calcul des séquences. Bien sûr, le temps et l'espace sont des ressources. Je ne vous ai pas parlé de temps et d'espace ici. Donc la notion de ressources pour la programmation système avec un destructeur, c'est autre chose, mais en réalité, il y a beaucoup de travaux théoriques et pratiques autour de la notion de complexité inspirée de la logique linéaire. Alors, enfin, donc les modèles de calcul émergents, quantique, probabiliste, et vous aurez l'occasion de voir Christine Tasson vous parlera de comment la logique linéaire a inspiré, donc inspire des modèles de calcul probabilistes, le 23 janvier. Je vous remercie. Pour aller plus loin, je vous propose une petite liste de lecture, voilà, et liste de programmation aussi. Je vous remercie.